Radio-Canu.com.
Merci de nous suivre sur Radio Orient. Il est midi, le journal Nadia Bencher. Au sommaire, l'Iran tend la main à Washington et promet de renouer immédiatement avec ses engagements si les États-Unis reviennent à l'accord de juin. Une figure de la Ve République s'éteint. Édouard Balladur est mort à 97 ans, Premier ministre de 93 à 95. Il fut aussi le grand rival de Jacques Chirac à la présidentielle de 1995. C'est la rentrée pour 11,6 millions d'élèves, mais plus de 2300 enfants la vivent sans toit après un appel au 115. Un chiffre encore sous-estimé, alerte Nathalie Latour, directrice de la Fédération des acteurs de la solidarité. Vous l'entendrez tout à l'heure. Bonjour. Alors que les affrontements ont repris entre Téhéran et Washington après un mois d'accalmie, l'Iran appelle aujourd'hui à la retenue. Le président iranien Massoud Pezeshkian a promis que son pays renouerait immédiatement avec ses engagements pour mettre fin à la guerre si les États-Unis revenaient au protocole d'accord signé en juin. Les précisions, Inès Gilles.
Oui, Nadia, à la mi-juin, Téhéran et Washington avaient signé le protocole d'accord d'Islamabad pour mettre fin aux hostilités déclenchées fin février par des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran. Mais cet accord a rapidement volé en éclats début juillet avec la reprise des hostilités. Et après un mois d'accalmie, durant ce mois d'août, les États-Unis ont finalement frappé lundi le détroit stratégique d'Hormuz et l'Iran a visé en représailles des cibles américaines en Jordanie et aux Émirats Arabes Unis. Mais hier, le président iranien Massoud Pezeshkian a estimé que poursuivre la guerre contre les États-Unis n'était pas dans l'intérêt de Téhéran. Et aujourd'hui, vous l'avez dit Nadia, il a réitéré en affirmant que Téhéran renouerait immédiatement avec ses engagements pour mettre fin à la guerre si les États-Unis revenaient au protocole d'accord. Le président iranien s'exprime en marge du sommet régional au Kirghizistan où il doit s'entretenir avec Vladimir Poutine. Un sommet qui réunit les dirigeants russes, iraniens, chinois, indiens, pas turcs qui veulent faire contrepoids à l'influence occidentale.
Et dans le même temps, Inès, les heurts se multiplient dans le détroit d'Hormuz.
Et oui, un tanker a été touché par 3 projectiles inconnus alors qu'il quittait le détroit d'Hormuz selon une agence maritime britannique, UKMTO, qui précise que l'incident s'est produit à 31 km des côtes omanaises. La société de sécurité maritime VanguardTech a ensuite identifié le navire comme le Sénégal Prosperity, battant pavillon libérien. Elle a précisé que des roquettes ont touché le navire sur son flanc bâbord, la salle des machines et un ballast, provoquant une perte des communications. Mais l'équipage est sain et sauf, selon VanguardTech. Et puis, hier, l'Iran a affirmé qu'un navire pétrolier avait été immobilisé après avoir heurté des mines lors d'une tentative illégale, je cite, de franchir le détroit d'Hormuz. Une information démentie par l'armée américaine.
Merci Inès pour toutes ces précisions. Direction le Proche-Orient, la tension remonte dans le sud de la Syrie. 10 membres des forces de sécurité ont été blessés dans de nouveaux affrontements avec des groupes armés dans la province à majorité de Russes de Souaïda. Ces violences surviennent au lendemain de la mort de 2 civils lors de heurts similaires. Des factions druses contrôlent toujours la ville de Souaïda et plusieurs secteurs de la province. Nouveau signe du retour diplomatique de la Syrie sur la scène internationale. Le Danemark vient de rouvrir son ambassade à Damas après 14 ans de fermeture. Copenhague rejoint ainsi plusieurs pays européens ayant rétabli leur présence diplomatique depuis la chute de Bachar al-Assad de fin 2024. À Gaza, 5 personnes ont été tuées lundi dans 2 frappes israéliennes selon les secours et l'hôpital Al-Shifa. 2 ont péri près d'un immeuble résidentiel de la ville de Gaza, 3 autres dans une frappe de drone contre une voiture à Tel el-Hawa. L'armée israélienne affirme avoir ciblé des membres de la branche armée du Hamas, dont un homme qu'elle accuse de fournir des armes au mouvement. Une alliance politique inédite en Israël à moins de 2 mois des législatives. L'ancien officier de police et ex-député centriste Yoav Segolovitch rejoint le parti arabe israélien Ram de Mansour Abbas. Une première pour cette formation créditée de 5 à 6 sièges qui mise sur une coopération politique entre citoyens juifs et arabes. Attaque russe massive sur Kiev et sa région. Au moins 12 personnes ont été tuées dans la nuit par des missiles balistiques et des drones, dont 7 dans un dépôt ferroviaire de la capitale. Moscou affirme avoir visé des sites militaires et énergétiques, tandis que l'Ukraine a riposté par une attaque de drones contre l'important port russe d'Ouest Louga. Dans l'Himalaya, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. La crue a désormais fait plus de 1000 morts et près de 4500 personnes restent portées disparues au Népal et au Tibet. Plus de 20 000 sauveteurs sont mobilisés côté népalais, notamment pour explorer des tunnels où une centaine d'ouvriers auraient pu trouver refuge. Aux États-Unis, cette fois, une crue éclair meurtrière a frappé le Grand Canyon. 2 personnes sont mortes et une autre reste portée disparue. Plus de 80 personnes ont été secourus, mais les recherches restent compliquées par la menace de nouveaux orages et de nouvelles inondations. L'Algérie reste, elle, durement touchée par les incendies qui ont ravagé le nord et l'est du pays. Le bilan provisoire fait état de 12 morts, mais il pourrait encore évoluer. Face à cette catastrophe, Emmanuel Macron a exprimé le soutien de la France et proposé l'aide de Paris, une initiative saluée par Laurent Lardy, député PS des Bouches-du-Rhône et président du groupe d'amitié France-Algérie, qui plaide surtout pour une coopération renforcée entre les deux pays face à des méga-feux qui frappent désormais les deux rives de la Méditerranée. On l'écoute.
Bien sûr, je pense que de toute façon, on a besoin de coopération. On voit que que la coopération sur la question des incendies, maintenant des fameux méga-feux, est de plus en plus étroite au niveau des autorités européennes. Je trouve qu'effectivement, c'est une bonne initiative de la part du président de la République de proposer cette coopération. Et je parle bien de coopération. Je parle de coopération parce que je pense qu'effectivement, la France peut aider l'Algérie, mais je pense que l'Algérie peut aussi aider la France. Dans la mesure où aujourd'hui ce qui se passe en Algérie est une conséquence directe du changement climatique, hein, du point de vue de l'intensité des incendies qu'il y a, et que nous avons beaucoup à apprendre des Algériens du point de vue de la manière avec laquelle eux gèrent ces températures tout à fait inhabituelles, ces assèchements, etc. J'en veux pour preuve la dernière étude, hein, qui date d'il n'y a pas très longtemps, d'un organisme international qui faisait des projections, si vous voulez, un petit peu pédagogiques pour les gens, pour leur expliquer les évolutions du climat dans le monde, et où il y avait une donnée, moi, qui m'a frappé, c'est de considérer que en 2050, Marseille devrait avoir à peu près le climat qu'il y a aujourd'hui à Alger. Donc aujourd'hui, s'inspirer de la manière avec laquelle Alger gère ses températures, ses excès de température, peut être plein d'enseignements pour une ville comme Marseille qui doit se préparer à affronter le même type de climat dans quelques dizaines d'années.
Laurent Lardy, député PS des Bouches-du-Rhône et président du groupe d'amitié France-Algérie, au micro de François-Xavier de Calonne. En France, une figure majeure de la Ve République disparaît. Édouard Balladur est mort à Paris à l'âge de 97 ans. Premier ministre de François Mitterrand entre 1993 et 1995, il avait mené la deuxième cohabitation avant de se lancer dans la course à l'Élysée. Une présidentielle qui restera marquée par son duel fratricide avec son ancien allié et ami de 30 ans, Jacques Chirac. Emmanuel Macron salue un serviteur exigeant de la France, tandis que les hommages se multiplient dans toute la classe politique. Le Rassemblement national persiste sur l'interdiction du voile dans l'espace public, malgré une avalanche de critiques venues de la majorité comme de la droite. Marine Le Pen veut soumettre la mesure à référendum, tandis que ses adversaires dénoncent une atteinte aux libertés et un projet difficilement applicable. C'est la rentrée pour 11,6 millions d'élèves en France, avec cette année l'interdiction du téléphone portable au lycée et des perturbations liées à la cyberattaque contre l'éducation nationale. Mais pour certains enfants, cette rentrée se fait dans une réalité bien plus difficile, celle de ne pas avoir de toit. Le dernier baromètre de la Fédération des acteurs de la solidarité de l'UNICEF France recense 2355 enfants restés sans solution d'hébergement après un appel au 115, un chiffre qui ne reflète pourtant qu'une partie de la réalité, comme l'explique Nathalie Latour, directrice de la Fédération des acteurs de la solidarité.
Le chiffre est effectivement très sous-estimé, parce que les 2355 enfants viennent des parents qui appellent le 115 et pour lesquels on dit qu'il n'y a pas de possibilité d'accueil faute de place disponible. On sait par exemple dans le cadre des Nuits de la Solidarité que le taux de non-recours, c'est-à-dire les personnes qui n'appellent plus le 115, est estimé à 76%. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans les appels au 115 sur la question des enfants, des mineurs, ne sont pas recensés aussi les mineurs non accompagnés. Et par exemple, la Coordination nationale des jeunes exilés en danger recensait en juin 2025 plus de 1087 enfants MNA qui étaient dans les squats et dans les campements. Donc oui, c'est un chiffre qui est loin d'être la réalité du nombre d'enfants qui sont sans solution d'accueil et d'accompagnement.
Et que l'on pourrait donc multiplier par 2,5, hein, d'après ce que vous nous dites.
Exactement, au minimum, oui, tout à fait.
Il y a des élèves, bien entendu, parmi ces enfants. Il y a des bébés, de jeunes enfants, des élèves également.
Tout à fait. En fait, on a aujourd'hui, le dispositif d'hébergement étant tellement contraint, on a aujourd'hui des critères d'accès à ce dispositif qui deviennent de plus en plus difficiles. Avant, post-Covid, quand vous aviez effectivement une famille qui appelait ou même des femmes enceintes avec des jeunes bébés, on était tout de suite sur le pont. Aujourd'hui, on a aussi la proportion d'enfants de moins de 3 ans ou de moins de 1 an qui augmente en fait année par année. Et bien évidemment, heureusement, on a aussi la mobilisation de parents d'élèves, d'enseignants, avec lesquels nous, on travaille beaucoup, parce que ces parents ou ces enseignants se rendent compte de plus en plus que dans les classes de leur enfant ou de leur élève, il y a des enfants qui, le soir, sortent de l'école et vont dormir à la rue.
Nathalie Latour, directrice de la Fédération des acteurs de la solidarité, au micro de François-Xavier de Calonne. La CGT veut faire du 29 septembre une journée noire dans les services publics. Sophie Binet appelle les fonctionnaires à une grande grève. En ligne de mire, les salaires et le futur budget 2027 que la dirigeante syndicale redoute régressif. Un nouveau concurrent se prépare à défier la SNCF. La compagnie privée Velvet vient d'obtenir sa licence d'exploitation en France. Elle ambitionne de lancer dès 2028 des trains à grande vitesse entre Paris et Bordeaux, Nantes, Angers et Rennes. Sport pour finir et une page de l'histoire du football qui se tourne. Lionel Messi dit adieu à la sélection argentine à 39 ans après plus de 20 ans sous le maillot de l'Albicéleste. Champion du monde en 2022, octuple ballon d'or et auteur de 125 buts en 207 sélections. La légende argentine quitte la scène internationale après la finale du dernier mondial perdu face à l'Espagne. C'est la fin de cette édition. Merci à Raymond Jouan à la réalisation. Excellente suite de programme sur Radio Orient.